disais à Meg, il y a une dernière chose que j'avais envie de lui demander, c'est le poids du silence. Parce qu'il y a une bande musicale qui a été composée par Henrove, un musicien new-yorkais qui est très forte, mais très souvent, ce qui est surtout très fort, c'est l'immense silence. Et on sait à quel point les gens détestent se trouver dans le silence dans un spectacle. Et pourtant, là, ils ont l'air extrêmement attentifs. What's the weight of silence in your performance? Quel est le poids de ce silence dans son travail?
I think it's very important because you have another perception of time and you get to hear the sound of the movement. I think Henrove is an amazing composer, especially because he's not afraid to use silence. He doesn't feel like he has to fill up every moment of the performance so that when you do have his score, it has a stronger impact because you just experience moments of silence.
Alors effectivement, le silence, c'est entre autres parce que ça nous permet d'avoir une autre perception du son et des mouvements. Et Henrove est un compositeur qui n'a pas peur d'utiliser le silence, alors même qu'il est censé composer de la musique. Et parce que justement, il sait à quel point elle peut rendre plus importante, plus impressionnante la musique ou le son quand elle réapparaît et le mouvement.
La musique que vous entendez, vous l'aurez bien sûr deviné, c'est un extrait de la musique du spectacle No Longer Ready Made, présenté par la compagnie de Meg Stewart, actuellement à la salle Patineau à Genève, encore ce soir, 20h30, mercredi 12 octobre. Vraiment, je crois que cela vaut la peine que vous peut-être annuliez un autre rendez-vous, entraîniez les amis que vous étiez censés voir ce soir-là et leur proposer d'aller voir ce spectacle magnifique, magnifique parce qu'il nous touche jusqu'au très fond de nous-mêmes. Merci à Meg Stewart de nous avoir consacré ce moment. Je vous dis peut-être les gens qui participent avec Meg Stewart à ce travail incroyable, les danseurs et danseuses tout d'abord, Florence Augendre qui est française d'origine mais qui travaille à Bruxelles, David Hernandez, devrions-nous dire, puisqu'il vient de Miami. Benoît Lachambre, qui est canadien. Et puis Meg Stewart, bien sûr, qui danse et qui est la chorégraphe du spectacle. La musique, Meg Stewart vous l'a dit, c'est Henrove qui l'a composée. Il est à l'origine violoniste et guitariste. Mais il a plusieurs fois composé des musiques pour la danse. Entre autres, il a reçu un prix pour une ou l'autre de ses créations. Et c'est la musique que vous entendez en ce moment, tout comme le piano très rapide que vous avez entendu au tout début de cette interview. La scénographie, vous l'avez entendu aussi, c'est André Lepecki qui a un parcours étonnant puisqu'il est anthropologue, critique de danse et écrivain. Il travaillait pendant longtemps au Portugal, écrivant pour les journaux portugais, il vit aujourd'hui aux États-Unis. Chemin étrange pour un décorateur. La costumière est une Portugaise aussi, Carlota Laguido, qui vit aujourd'hui à New York. Et des lumières magnifiques faites par Michael Holtz, qui est un Anglais. Alors, No Longer Ready Made, compagnie Meg Stewart, ce soir, salle Patineau, à Genève, 6 avenue de Miremont. Vous pouvez téléphoner tout de suite. J'espère que je vous en ai donné envie et que surtout Meg Stewart vous en a donné envie au 347 50 57.
Thank you. Dankeschön. what do I get? What am I giving? Why do I want the things I shouldn't hope for? I daren't hope for.
C'était Ella Fitzgerald dans un concert à Berlin, un concert magnifique enregistré en 1961. Et c'est un extrait de ce magnifique concert. Alors, je vous le disais tout à l'heure, tout de suite, des nouvelles de femmes que nous aimerions bien avoir avec nous pour qu'elles nous racontent tout ce qu'elles entreprennent. Hélas, nous ne pouvons pas les avoir toutes en même temps parce qu'en l'occurrence, elles font toutes quelque chose en même temps. Alors, je me fais un peu leur porte-parole. Tout d'abord, des nouvelles du musée d'ethnographie. Et là, je dois faire un mea culpa très important parce que si aujourd'hui nous n'avons pas Christine Détra, qui est la responsable des manifestations destinées au public du musée d'ethnographie de Genève, eh bien, c'est certainement beaucoup de ma faute d'avoir laissé échapper la date d'une manifestation fantastique auquel vous pourrez participer ce samedi 15 octobre. De quoi s'agit-il ? Rappeliez-vous, nous recevions dans nos studios Alain Monnier qui était le responsable d'une exposition qui se termine ce samedi 15 octobre, l'Amazonie, d'une baronne russe, Alain Monnier, qui était accompagnée d'Anne Grossenbacher. Anne Grossenbacher qui avait fait la mise en espace de cette magnifique exposition. Alors, pour terminer cette exposition, eh bien, Christine Détra m'a raconté que ils avaient envie, les organisateurs et organisatrices, de se retrouver ensemble avec un certain nombre de gens pour marquer la fin de cette exposition. Et ainsi, ils ont prévu toute une série de conférences sous le thème « Amazon » au pluriel, en voyage. Alors, de quoi s'agit-il ? Toute une série de rencontres, de conférences autour de ce thème qui aura lieu au musée d'ethnographie 65 boulevard Karl Vogt à Genève ce samedi 15 octobre dès 14h. Et lorsqu'on jette un coup d'œil au programme des conférences, eh bien, et là c'est la raison pour laquelle je suis d'autant moins pardonnable, eh bien c'est la parole donnée à des femmes. Et c'est l'évocation de nombreuses voyageuses, puisque si Amazon en voyage est le thème de cet après-midi-là pour clore l'exposition L'Amazonie d'une baronne russe, eh bien c'est que la baronne en question était vraiment une très mauvaise voyageuse et n'était pas du tout un exemple de voyageuse. Car en fait, si elle s'est trouvée en Amazonie, c'est parce qu'elle était allée en voyage de noces. Et si elle a dû entreprendre ce voyage incroyable qui consiste à traverser de la côte est à la côte, de la côte ouest à la côte est de l'Amérique du Sud, c'est tout simplement parce que la peste empêchait d'embarquer sur un bateau normalement, comme elle l'avait prévu avec son mari. Et donc, c'est bien malgré elle qu'elle a dû entreprendre ce voyage. Donc, voyageuse, pas du tout par choix. Donc, les organisateurs et organisatrices du musée d'ethnographie ont décidé d'évoquer des femmes qui, elles, avaient choisi de voyager et qui sont des voyageuses dans l'âme. Alors, je vous présente les 5 conférences qui seront données à propos de femmes voyageuses. Tout d'abord, Louis Necker, l'actuel directeur du musée d'ethnographie, commencera à rendre un hommage à la patronne. Qui est la patronne, plutôt qui était la patronne ? Eh bien, c'est l'ancienne directrice du musée d'ethnographie de Genève, Madame Marguerite Lopsiger-Dellenbach, et à qui Louis Necker a envie de rendre un hommage, qui était elle-même une grande voyageuse. Elle a fait entre autres de nombreuses ascensions, semble-t-il. Et donc on avait vraiment envie de rappeler ce caractère de voyageuse de la patronne, puisque c'était ainsi que les gens l'appelaient au musée d'ethnographie. Une deuxième conférence qui est en fait une découverte, un coup de cœur d'Alain Monnier, historien des religions et donc qui est responsable, qui a conçu l'exposition « L'Amazonie d'une baronne russe », eh bien, lui, il a un coup de cœur, c'est pour Louise Michel. Louise Michel, vous, chères auditrices, vous la connaissez aussi bien. C'est une révolutionnaire qui a participé aux événements de la Commune de Paris en ce milieu du 19e siècle en France. Et la Commune, hélas, si elle a réussi à avoir quelques succès, mettant les préoccupations du peuple au cœur des choses à cette époque-là, malheureusement, ça s'est fort mal terminé. Et Louise Michel a été exilée en... Tout à coup, le mot me manque. Chez les Kanaks, pardon, en Nouvelle-Calédonie. Et alors, Alain Monnier a eu envie de voir ce que cette communarde a été faire chez les Kanaks. C'est ce que nous pourrons découvrir samedi avec, en compagnie d'Alain Monnier. Troisième voyageuse et quasi incontournable qui s'imposait sous le thème Amazon en voyage, eh bien, c'est l'évocation d'Isabelle Eberhardt, la chercheuse d'Absolu. Et c'est ainsi que l'a défini Marie-Odile Delacour et Jean-René Hulleux, qui tous deux sont responsables de l'édition des œuvres complètes d'Isabelle Eberhardt. Quatrième volet, c'est les voyageuses et transfuges, femmes occidentales aux antipodes. C'est un titre un petit peu compliqué peut-être pour évoquer un livre qui s'appelle « La vraie vie est ailleurs » qui a été écrit en 1989 par Jean-Michel Bélorget et qui analyse en quelque sorte le pourquoi d'un départ en voyage. Pourquoi partons-nous ? Qu'est-ce qui nous pousse à aller voir ailleurs ? Qui est-ce qui a poussé certaines femmes occidentales à voyager jusqu'aux antipodes ? Jean-Michel Bélorget, auteur du livre « La vraie vie est ailleurs ». Et puis peut-être le dessert ou bien l'étoile dans le firmament, je ne sais comment le qualifier, mais en tout cas une très très belle rencontre aussi pour terminer cet après-midi sur le thème Amazon en voyage, Amazon au pluriel. Eh bien, c'est une rencontre avec une voyageuse suisse aussi, Ella Maillard, que vous connaissez bien sûr. Ella Maillard qui aujourd'hui a 91 ans et qui connaît bien le musée d'ethnographie parce qu'elle était entre autres une amie de la patronne Marguerite Lobsiger-Dellenbach qui sera fêtée et remerciée par Louis Necker, l'actuel directeur. Ces deux femmes se connaissaient très bien. Mais en fait, lorsque Christine Détresse s'est adressée à Ella Maillard pour participer à cet après-midi, eh bien, elle a dit mais moi, je n'ai rien à dire, rien à raconter sur le voyage. Pour moi, c'est la chose la plus simple du monde. Qui veut voyager, voyage. Alors, il semblerait qu'en tant que voyageuse très ordinaire comme elle se trouve, eh bien, Ella Maillard va plutôt dire que tout ce qu'on considère comme des périples extraordinaires qu'elle aurait fait, eh bien, en fait, pour elle, c'est très normal. Si elle est allée si loin, si longtemps, bah, parce que c'est elle qui l'a choisi. Donc, les choses se sont un peu enchaînées très naturellement. Si, par exemple, elle a dû voyager à pied, ce qui paraît insensé à certains, au fin fond de l'Asie, c'est tout simplement parce qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle n'avait pas le choix. Si elle a décidé d'aller à tel endroit, par exemple, c'est parce qu'elle savait qu'elle pourrait y être accueillie. Donc, là, rien d'extraordinaire, mais une succession, un enchaînement de faits très naturels. Alors, une rencontre dès 14h, samedi 15 octobre, avec toutes sortes de grandes voyageuses, ceci jusque vers 18h. Et toutes ces rencontres auront lieu dans la salle des expositions momentanées du musée d'ethnographie. C'est une petite salle, il ne peut y avoir qu'une centaine de personnes installées dans cette salle. Alors les organisateurs de cet après-midi vous proposent instamment de réserver. Il vous faut appeler à Genève le 328 12 18, je répète, musée d'ethnographie au 328 12 18 et vous réservez vos places pour samedi 15 octobre dès 14h pour rencontrer les Amazones en voyage, histoire de marquer par un événement important la fin de l'exposition L'Amazonie d'une baronne russe et de rencontrer des femmes qui ont vraiment choisi d'être des voyageuses. N'oubliez pas, réservez votre place et ne pensez pas venir seulement pour écouter Ella Maillard par exemple, parce que ceux qui sont arrivés à 14h auront pris votre place, même si vous l'avez réservée. D'autres rencontres magnifiques pour ce week-end, dimanche 16 octobre en l'occurrence, dans le cadre de la Fureur de Lire 1994, ce sont nos amis de la librairie Inédite qui nous le proposent. En l'occurrence, elle vous invite à passer à la librairie 18 avenue Cardinal Mermillot de 11h à 13h30. Partagez en quelque sorte un brunch avec elle. En tout cas, elle vous propose de boire l'apéritif, un verre de vin ou un thé à la menthe. Ça dépend ce que vous préférez. Pourquoi le thé à la menthe? Eh bien, parce que nous serons en compagnie de femmes d'Afrique du Nord. Tout d'abord, Sakina Balos, que vous connaissez bien, parce qu'elle est souvent venue dans Honte Femme nous parler de nombreuses choses. Entre autres, nous parler l'année passée, et elle le représente dans le cadre de cette invitation de nos amis de l'Inédite, son agenda des femmes du monde arabe, l'agenda Najma 1995. Donc, elle sera là pour vous montrer ce nouvel agenda et vous le faire découvrir. Elle sera accompagnée elle viendra avec un livre qui s'appelle « L'Oued en cru » et je ne comprends pas très bien si l'auteur de ce livre sera là aussi. Livre écrit par Baya Jurket Bouhoun, je ne suis pas du tout sûre de prononcer correctement, qui est une écrivaine et militante algérienne, dont je vous répète le titre du livre « L'Oued en cru » de Baya Jurket Bouhoun, écrivaine et militante algérienne. Donc les femmes arabes, c'était de 11h à 13h30 à la librairie des femmes L'Inédite, 18 avenue du Cardinal Mermillot. Mais cela continue, vous pouvez boire le thé avec nos amis de L'Inédite résolument, toujours ce dimanche 16 octobre. De 14h30 à 17h, eh bien, elles accueilleront Elisabeth Orem qui dédicacera son roman Le Ring, publié aux éditions Bernard Campiche cette année. Et elles se feront un plaisir, encore une fois, de vous offrir le verre de l'amitié. Alors, la librairie est ouverte dès 10h ce dimanche 16 octobre. Venez rencontrer les femmes qu'elles vous proposent, Sakina Belouz, Baya Jurket Bouhoun, Elisabeth Orem, dans le cadre de la Fureur de Lire 1994. Vendredi 14 octobre à 20h à la maison de quartier de Plainpalais, eh bien, l'Assemblée générale de l'Association pour l'Union entre les peuples juifs et palestiniens. Ici, la première partie de cette assemblée sera effectivement liée au travail de l'association elle-même. Dès 21h30, et je pense que vous pouvez rejoindre tout à fait l'assemblée à ce moment-là, il y aura une écrivaine aussi, Annie Fior, qui nous parlera de son expérience dans les territoires occupés et nous présentera son livre bouleversant qui a pour titre « Rêve d'indépendance, chronique du peuple de l'Intifada ». Et cette journaliste française et écrivaine, je crois, vaut la peine de se déplacer, pour la deuxième partie en tout cas, je vous le rappelle, de l'association pour proposer, donc de cette soirée proposée par l'Association pour l'Union entre les peuples juifs et palestiniens, vendredi 14 octobre, 20h, maison de quartier de Plainpalais, ou 21h30 si vous voulez venir seulement pour la rencontre avec Annie Fior et son livre « Rêve d'indépendance, chronique du peuple de l'Intifada ». Le délai est un petit peu plus long, mais je vous en parle d'ores et déjà en espérant que nous pourrons y revenir. Le 19 octobre sortira sur les écrans de Suisse Romande, en l'occurrence à Genève, Lausanne et Neuchâtel. À Genève, je suppose, au cinéma Scala. Le film réalisé par le réalisateur cambodgien Ritipan, qui a pour titre « Les gens de la rizière ». Ce film... Le Marc Houvet de la Fondation Trigon Film qui se charge de faire connaître ces films réalisés dans le Sud. Marc Houvet nous en avait déjà parlé il y a 3 semaines alors que nous fêtions les 5 ans de l'association de la Fondation Trigon Film. Je vous résume le film encore en quelques mots parce que des femmes sont les actrices principales de ce film et je pense qu'il vous passionnera. La famille de Wang Po attend à chaque saison la récolte du riz, fruit de tous leurs efforts. Symbole de l'harmonie entre les hommes et la nature, cette récolte est la mère nourricière. Et la poésie des images d'une grande pureté réalisée par Etipan nous montre les dangers que court le cycle de la vie, qui est celui du riz. À la mort du père, Yim Yom, la mère, doit se débrouiller seule avec ses 7 filles. La mère, qui ne peut accepter la disparition de son mari, perd progressivement pied et bascule dans la folie. Les plus grandes d'entre ses filles prennent en main la destinée de la famille et avec une ténacité remarquable et une dignité rare, réussissent à assumer le tout. La force intérieure qui anime cette famille, qui doit se battre pour son avenir, donne en fait le ton du film qui est tout sauf mélodramatique. Il y a dans chaque plan une infinie douceur, un amour pour chacun des personnages. Le parti pris de simplicité rehausse la valeur symbolique que porte cette famille, figure allégorique, bien sûr, des 3/4 de l'humanité, à l'avenir chaque fois remis en cause et qui savent préserver leur dignité, même dans les situations les plus périlleuses. Et bien sûr, allégorie du pays du Cambodge, qui, lorsque la mer découvre un crabe dans sa rizière, pourrait être tout aussi bien les bombes, les mines qui ne sont pas encore sorties du sol, du Cambodge et qui tue chaque jour des milliers ou des centaines d'enfants et de Cambodgiens. Les gens de la rizière, un film réalisé par Ritipan, film cambodgien, dès le 19 octobre sur les écrans genevois, lausannois et Neuchâtel.